France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, 10e saison en version hebdo désormais, tous les vendredis à 10h et tous les mois nous vous proposerons un club des lectures qui font du bien, la recommandation mensuelle où vous pourrez par la suite échanger sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Ce matin, deux journalistes et un libraire partagent leurs emballements, deux chroniqueurs qui nous emballent, les Emma Peel et John Steed du vendredi. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie, nouvelle chronique cette saison, les punchlines de la philo au programme en fin d'émission.
Eh bien après, connais-toi toi-même la semaine dernière, cette semaine, l'enfer c'est les autres.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali, je m'en remets pas d'Emma Peel.
Oui, vous êtes notre Emma Peel du vendredi, interprétée par...
c'est de la radio, personne ne voit.
Interprétée par Diana Rigg, et vous êtes chef de rubrique cinéma Télérama, nouvelle chronique cette saison, cinéthérapie au programme.
Alors au programme, vous savez, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, c'est la rentrée.
Oui.
Oh là là. Ouais.
Et c'est le syndrome du nid vide aussi.
C'est le syndrome du nid vide. Ah mais ça y est, alors vous spoilez tout. Vous.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Les livres sont d'abord les meilleures représentations de nos rêves et de nos désirs, sont les amis auxquels on peut faire recours sans besoin justement de frapper à la porte. Ils sont là, on peut les ouvrir, demander des conseils à n'importe quelle heure. Et comme le disait le marchand florentin du XIVe siècle, Giovanni di Pagolo Morelli, il disait à son fils, et en plus, ils te reçoivent sans frais. Nous avons là une réserve de sens, une réserve d'amitié, une réserve d'avenir très importante. Aujourd'hui, la lecture est vraiment une ressource contre et face à ce monde qui semble ne plus avoir de sens, de perspective, je dirais même d'utilité pour la société.
Le merveilleux professeur émérite au Collège de France, l'italien Carlo Ossola, que j'adore, c'était dans Grand Bien vous fasse en juin 2025. Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste, conférencière, autrice de ces livres qui nous font du bien, et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire.
Oh, que c'est gentil, merci beaucoup.
Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Alias Princesse Christine, journaliste, conférencière et critique littéraire. Vous collaborez à Libé Polar sur libé.fr. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Libraire au Comptoir des mots à Paris dans le 20e arrondissement. Une première question inépuisable après avoir écouté Carlo Ossola. Quels sont les livres qui vous ont véritablement transformé à un moment de votre vie, Christine Ferniaud?
Alors, c'est pas vraiment un livre, mais c'est un auteur qui, au moment de mon adolescence, a complètement transformé ma vision et de la vie et de la littérature, ce qui fait beaucoup. C'est Colette. J'étais une adolescente un peu coincée, un peu enfermée dans des choses figées. Et je lis Colette et je me rends compte que c'est exactement la personne que je voudrais être. La personne libre, libre sexuellement, libre littéralement, libre parce qu'elle aime autant les hommes que les femmes. Elle aime une littérature populaire et en même temps, elle a une écriture extrêmement fine. Elle me fait aimer la nature, elle me fait aimer ma mère avec Sido. Et je pense que ça a vraiment bouleversé tout ce que je pouvais penser et elle m'a fait un bien fou. Et ça me fait rire parce qu'à l'époque, je n'osais pas dire Colette, c'était un peu vulgaire et tout. Et maintenant, Colette est célébrée comme une grande artiste, une grande romancière. Il y a cet anniversaire qui arrive, tout le monde va la lire et l'apprécier. Et je me dis, moi, je l'ai connue avant. Un peu après sa mort, mais avant.
Théodore Dillerin.
Moi, c'est un tout petit livre de Nathalie Léger qui fait à peine 70 pages, qui a été publié chez POL en 2020, qui s'appelle « Suivant l'azur ». Et en fait, il est dans ma bibliothèque, dans une section un peu particulière qui regroupe les petits livres immenses. C'est que des textes très courts, mais qui ont une importance.
C'est magnifique,
pour moi,
ça, les petits livres immenses.
Donc il y en a quelques-uns, et parmi ceux qu'il y a, il y a donc Suivant l'azur, c'est un journal de deuil qu'elle a tenu en 2018 à la mort de son compagnon, et qui parle de la mort, mais surtout de l'amour et de la vie. Et en fait, c'est un court texte qui prouve que la littérature, à la fois du côté de l'écriture pour Nathalie Léger, mais aussi de la lecture pour nous, est un baume qui apaise et rend immortel. Donc c'est vraiment un livre que je relis régulièrement, que j'ai toujours à la librairie et que je conseille aux gens qui viennent de perdre quelqu'un et qui me demandent un conseil, et qui fait du bien et qui permet d'aller mieux.
Christina ?
Alors, pour moi, il y en a deux. Alors, un, très rapidement, quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans et que je commençais à être une gaga de la lecture, il y a eu Les Contes et Légendes de Rome, qui m'avait complètement éblouie. Et je me souviens que je pleurais comme une madeleine à l'histoire d'un jeune enfant qui meurt. Enfin bon, bref, toute une histoire. Et puis, il y en a un autre que j'ai lu beaucoup plus tard, qui est un livre de George Orwell, extraordinaire, qui est en fait un livre de reportage, mais beaucoup plus que ça, et qui s'appelle « Dans la dèche, à Paris et à Londres ». Et ça, c'est absolument un texte, mais je me souviens encore, je le lisais, je ne pouvais pas m'en arracher, et j'étais sidérée, littéralement sidérée par la beauté, la force de l'évocation, et par-dessus le marché, le fait que c'était lui dont il parlait. Il avait vraiment vécu cette dèche-là qu'il décrivait, et ça a été une révélation. J'avais du mal à me mettre dans 1984, mais ça, c'était...
Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, disponible en poche chez 10-18 Guillemette.
Bah moi, c'est un moment, en plus, c'est vraiment un moment physique. Vous savez, vous êtes une préadolescente, et puis vous avez lu pas mal de trucs, des trucs qu'on vous a obligé de lire à l'école et tout. Et vous faites ce geste d'ouvrir la bibliothèque de vos parents. Enfin là, pour le coup, moi, c'était mes grands-parents. Et dedans, il y avait un livre à la couverture violette. Un livre très ancien, qu'ils avaient dû acheter eux-mêmes il y a longtemps. Et c'était le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. En plus, c'était magnifique parce que la première phrase avait été imprimée sur une page à elle seule. Et la suite continuait sur la page suivante. Et c'est le riche parfum des roses embaumé l'atelier. Et je sais pas, vous savez ce que c'est quand tout d'un coup, c'est exactement ça, le riche parfum des roses, quelque chose qui est de l'ordre d'être captive, comme un parfum qui vous... captivant, enfin... J'ai plongé dedans et j'ai compris que la littérature pouvait être une espèce de faille béante dans laquelle on plongeait. Je crois que c'est avec ce livre-là que j'ai compris.
Thibaut ?
Alors moi, c'était l'histoire d'un malentendu. J'ai essayé de lire Marguerite Duras comme tout bon étudiant littéraire vers 20 ans. Et en fait, j'ai trouvé ça nul, en étant un peu coupable de trouver ça nul, parce que tout le monde disait que Marguerite Duras était une grande écrivain, ce qu'elle est, évidemment. Et il a fallu attendre 20 ans, donc avec plus de maturité. Et à un moment aussi dans ma vie où voilà, c'était un peu compliqué, il y avait des questions sur le couple, la famille... Et j'ai lu un livre de Marguerite Duras qui s'appelle « Les petits chevaux de Tarquinia ». Il se passe pas grand-chose, on est en plein été au bord de la Méditerranée. Il y a un couple qui part en vacances avec des amis. Et puis, il se passe ce qui se passe, des questions sur le couple, sur l'amour, une rencontre. Et il y a quelque chose de très juste, de très vrai, de très mature. Et donc, je suis content parce que du coup, après, j'en ai lu plein de Duras. J'ai relu beaucoup de Duras et j'ai trouvé ça super. Et deux, c'est un livre qui m'a beaucoup apaisé. On a toujours l'impression que les questions qu'on se pose sont extraordinaires, uniques, que, en fait, oui, c'est vrai, c'est une difficulté, mais en fait, c'est pas pareil que la tienne, etc. Et là, la manière dont elle raconte ce que c'est que la vie de couple, c'est à la fois tout à fait singulier et propre à ses personnages, et à la fois chacun, avec les questions qu'il a sur son couple, etc., peut y trouver des éléments d'apaisement.
Allez, on débute ce nouveau club de lecture avec vous, Christine Pelédouel. Vous avez choisi de partager votre engouement pour Finistère, d'Anne Berest, publié chez Albin Michel. Anne Berest, qui avait connu un énorme succès avec La Carte Postale.
Anne Berest, elle poursuit sa volonté de... établir la chronique de sa famille. Alors, elle avait commencé avec sa mère, dans La Carte Postale. Après, elle a fait quelque chose sur sa grand-tante, je crois, avec sa sœur. Et puis, aujourd'hui, elle parle de son père. Et son père, vraiment, est un Breton, j'allais dire pur jus, presque pur jus, parce qu'il vient d'une famille pauvre à l'origine, puis qui, peu à peu, s'est élevé dans l'échelle sociale. Et c'est ça qu'elle raconte. Elle raconte vraiment la transformation d'une famille, de sa famille paternelle, par la méritocratie, en fait. D'abord, son arrière-grand-père par la méritocratie syndicale, puisqu'il a été l'un des fondateurs d'un des premiers syndicats agricoles. Puis après, son grand-père, puis son père qui est devenu polytechnicien et qui a fait une carrière brillante, très brillante, de mathématicien. Et ce qui est beau dans son livre, c'est cette manière de mêler toutes les générations, parce qu'elle parle d'elle aussi, et à travers toutes ces histoires qui courent comme un ruban, on perçoit très bien aussi, ce qui est une de ses préoccupations, la transmission, alors la transmission inconsciente, la transmission muette d'une génération à l'autre, et puis peu à peu tous les mouvements d'émancipation et de libération jusqu'à elle. Et c'est formidable. C'est vraiment un portrait, en fait, de la France jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis vraiment le début du XXe siècle jusqu'à maintenant. Et alors, je ne sais pas quel sera le prochain, mais ça sera peut-être, je ne sais pas, du côté des cousins, j'en sais rien.
Finistère d'Anne Berest, et c'est publié chez Albin Michel. Le monde est fatigué. Eh ben, c'est pas simplement un constat, c'est aussi le titre du nouveau livre de Joseph Incardona, et c'est publié chez Finitude.
Et effectivement, le monde est fatigué, mais Joseph Incardona ne l'est jamais. Parce qu'il nous avait raconté, on en avait parlé ici dans Stella et l'Amérique, du mythe de la sainte. C'était une prostituée qui était une guérisseuse. Ouais. Et du coup, le catholicisme était un petit peu... Enfin, du côté du Vatican, on trouvait ça un peu inquiétant. Et là, cette fois-ci, dans Le monde est fatigué, il nous présente Ève, qui est une femme sirène professionnelle. Alors, au début, on se dit, il invente complètement un personnage, parce qu'elle nage dans les plus grands aquariums du monde, elle est fascinante, elle est très pro, elle est très belle, c'est le silence, c'est la beauté, c'est de la pacotille. Et en fait, on s'aperçoit très vite, et je ne spoile rien, que Ève, eh bien, elle a eu un accident épouvantable et elle n'a plus de jambes. Donc, elle est avec des prothèses, et je ne vais pas plus loin, mais du coup, elle enfile son maillot. Vous ne pouvez pas voir, mais je suis en train d'enfiler mon maillot de sirène pour ensuite aller faire...
Mais je vous imagine en sirène, là, j'ai une image mentale très forte.
Et donc, avec cet accident qu'elle a eu, en fait, tout le livre, c'est une histoire de vengeance et montrer aussi ce que c'est que ce monde de pacotille où on adore les fausses sirènes. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Joseph Incardona, qui est italien et suisse, ça explique peut-être beaucoup de choses, c'est qu'il fait à la fois une critique sociale épouvantable et en même temps, il nous fait sourire et c'est plein de sarcasme, c'est plein d'ironie, son écriture est comme ça, un peu... on a toujours l'impression qu'il y a un clin d'œil. Et en même temps, Ève, c'est une tragédie, c'est très très réussi. Donc moi, je recommande ce livre-là parce que le monde est fatigué, mais le livre fait du bien.
Joseph Incardona qui publie Le monde est fatigué, c'est publié chez Finitude. Théodore Dillerin, pourquoi la lecture de Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pavlovska, de Pierre Boisson, aux éditions du Sous-sol, vous a-t-elle fait autant de bien ? Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pavlovska.
Parce que j'ai pris une double claque. Pierre Boisson, il est journaliste à Society. Et tous les ans, il se lance un défi. Alors, on en pense qu'on en veut, mais c'est un défi qui se lance de lire plus de livres que l'année précédente. Et au début du livre, il nous explique qu'il est dans la bibliothèque de ses beaux-parents, il tient sa fille dans ses bras, etc. Et il cherche un livre à lire. Et le seul critère qu'il recherche, en fait, c'est de trouver un livre court pour le lire vite et en lire plus. Et il aperçoit dans la deuxième rangée de la bibliothèque un livre qui a l'air assez fin. Il le sort, Écarlate. Christine Pavlovska, publiée au Mercure de France en 1974. Et il en commence la lecture. Et là, c'est lui qui se prend une claque. Parce qu'il découvre une ado, très jeune autrice, qui écrit sur les tourments de l'adolescence. Et à la fin du livre, les éditions du Mercure de France annoncent que Christine Pavlovska a, je crois, 20 ans, et qu'elle a d'autres travaux littéraires en cours. Là, il est piqué, donc il va chercher quels sont ses autres livres. Il n'avait jamais entendu parler d'elle. Et il ne trouve rien. Et à partir de là, le journaliste prend le pas sur le lecteur et il va gratter. Il va remonter le fil de qui était Christine Pavlovska, qui, en 1974, quand elle a publié Écarlate, est comparée à Sagan, à Annie Ernaux, et la petite protégée de Simone Gallimard, parce que le Mercure de France appartient aux éditions Gallimard. Et quelle a été sa vie? Et bien ça, c'est le travail journalistique qu'il va faire dans Flamme, Volcan, Tempête, un portrait de Christine Pavlovska, parce qu'on va savoir qui elle était, quelle est la genèse de ce texte écarlate pour lequel il a pris une claque, pourquoi il n'y a rien eu derrière, ou peut-être qu'il y a eu des choses, ça on va le découvrir dans l'enquête. Et alors, donc ça c'est passionnant, et ce qui est super, c'est que les éditions du Sous-Sol qui publient ce titre ont racheté les droits d'Écarlate qui était indisponible depuis des années et des années au Mercure de France, et le republie directement en poche. Donc moi mon conseil c'est, comme Pierre Boisson, de se prendre la claque, d'aller chercher Écarlate de Pavlovska. Je l'ai lu, moi, en une heure, au Père Lachaise, caché dans un caveau, c'est époustouflant.
Ben dis donc.
Et ensuite,
la nuit,
la journée, je ne me fais pas encore enfermer au Père Lachaise.
On peut le lire dans sa cuisine aussi.
On peut le lire n'importe où, mais enfin, on se prend la claque.
Vous,
et ensuite...
vous lisez dans des caveaux, c'est votre côté Hagrid, beau gosse. Ouais, Hagrid, le personnage d'Harry Potter.
J'ai mes petites cachettes.
Mais Hagrid, beau gosse.
La librairie est pas loin de cette.
Donc, a priori, je n'aurais pas lu ce livre, mais là, vous m'avez vraiment donné envie. Flamme, volcan, tempête, un portrait de Christine Pavlovska de Pierre Boisson aux éditions du Sous-Sol. Un mot.
Et d'ailleurs, si vous voulez aussi écouter Pierre Boisson, je le reçois le mercredi 10 à 20h à la librairie au comptoir des mots.
Son vrai nom est Bernadette Guimet Odissino et sa nouvelle chronique, Cinéthérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Bernadette, bon.
Bernadette Odissino, c'est pas mal.
Très bien. Alors, cher Ali, en tant que docteur Sinoche qui tient à être... En tant que docteur Sinoche qui tient à être compétente, je me dois de prendre en compte les besoins de mes patients. Alors, en cas, par exemple, de chagrin d'amour, certains préféreront voir un drame sentimental bien plombant devant lequel ils retrouveront un écho de leur propre malheur. La bonne vieille catharsis. Mais d'autres, au contraire, chercheront la consolation en se lovant dans une délicieuse comédie romantique dont le happy end leur redonnera du baume au cœur.
Ça, c'est moi.
Voyez qu'il y a deux familles. Donc, à tout sujet, deux remèdes possibles. Et aujourd'hui, le sujet, c'est ce mot qui nous rend très fatigués, qui rend très fragiles. La rentrée. Alors, beaucoup de parents sont déjà en train de rêver de changer d'identité et de fuir aux Galapagos à cause des listes de fournitures ou parce que leur fille, enfer, damnation et mail de supplication au proviseur n'est pas dans la même classe que ses copines cette année. D'autres font les malins auprès de leurs amis. Écoute, oui, c'est super, on a bien installé Mathilde à Nantes le week-end dernier. Nicolas, on est ravis. Sa coloc à Paris va bien se passer, il a promis de revenir le week-end nous voir à Limoges, et on va être enfin tranquille la semaine.
C'est du vécu, ça.
Paroles. Alors, bien sûr, ils mentent, car en vérité, c'est le drame. Leur bébé de 18 ou 22 ans vient de quitter la maison pour faire des études ailleurs. Vivre sans eux. Alors quand c'était l'aîné, ça allait encore, il restait des mouillettes à tartiner, vous pouviez crier encore avec, vous savez, avouez-le, plaisir. C'est pas un hôtel ici.
Ni un restaurant.
Mais là, c'est le petit dernier qui a déserté le nid. La maison est vide. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants.
C'est une chronique chantée,
ce soir,
en fait.
Oui.
Bon, docteur Odissino, une ordonnance, peut-être ?
Oui, alors, je vous prescris d'abord un des films les plus sensibles, drôles et poétiques sur le sujet, avec un père célibataire qui doit laisser partir sa fille unique. À moins que ce soit cette merveilleuse gamine qui, post-bac, n'est pas si sûre de vouloir laisser papa tout seul.
T'as peur d'abandonner tes parents ?
Non. J'ai même un peu hâte. Mais je pense, puisque je me rends pas tellement compte, quand je partirai avec ma valise à roulettes, et voilà, je cacherai mes larmes un peu comme tout le monde. Tu sais, c'est que le tome 1. Le deuxième, il sera bien meilleur. Et un alexandrin en plus.
Je pourrais l'illustrer avec mes peintures.
Alors, la fille de son père, Derwan le Duc, est comme ces petites granules que l'on met sous la langue, vous savez, quand on s'est fait une bosse. Une douce homéopathie qui vous rappellera que ce n'est pas 300, 700 kilomètres qui ficheront en l'air la complicité que vous avez avec la chair de votre chair. Ou alors, vous avez la version noire. Lolo, de Julie Delpy. Le film qui vous convainc que ce n'est pas vraiment une mauvaise chose d'être débarrassé de votre engeance. Car dans cette comédie presque flippante, c'est un Vincent Lacoste en slip et totalement pervers qui squatte le lit de sa mère et l'empêche de vivre sa vie de femme par tous les moyens. Heureusement que Karine Viard est là pour dire ce qu'il vous est arrivé de penser, avouez-le.
Eh ben viens-le.
Qui ?
Bah, Lolo, ça va pas, je peux pas lui faire ça. Hein.
Non mais tu plaisantes, hein. Il en a rien à foutre. Il est comme ma fille, ils en ont rien à foutre de nous. Il est autiste, ils sont tous autistes à cet âge-là. Vire-le, tu lui rendras service.
On croit. Hein.
Allez, laissez vos enfants s'envoler. Et c'est peut-être à vous qu'il va repousser des ailes.
La ciné-thérapie du docteur Odissino, avec donc deux films à regarder en famille ce week-end. La fille de son père, d'Erwan Leduc, et Lolo de Julie Delpy. Cette chronique ciné-thérapie est à podcaster et à partager sur l'appli Radio France. Dans un instant, on poursuit ce premier club de lecture de Grand Main Vous Fasse. On écoute Georges Moustaki, ça va faire plaisir à Christina. C'est pour son anniversaire. Les Eaux de Mars, une chanson de la très belle année 1973.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Et on vient d'écouter Georges Moustaki, Les Eaux de Mars.
Ali Rebéi.
Et que nous pensions à lire tout le temps. Ursonar, Adrien, c'est quoi ça?
Un empereur romain.
Ursonar, c'est un empereur romain?
Adrien.
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein. Qui c'est Katoyelae, là? C'est ton Ursonar, Katoyelae?
Sur France Inter.
Bon, alors.
Et ce matin, dans Grand Main Vous Fasse, c'est le jour du club des lectures qui font du bien avec les journalistes Christine Ferniaud, alias Princesse Christine, et Christina Pelé-Douel, et avec le libraire Théodore Dillerin. Écoutons le prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, décédé en avril dernier. C'était sur FR3 en 1989.
Je crois qu'à travers la littérature, nous avons quand même la possibilité d'avoir les vies que nous n'avons pas dans la réalité, hein. À travers les romans, nous sommes capables de parcourir, n'est-ce pas, toute l'histoire, de nous multiplier dans toutes sortes d'expériences, même les plus terribles, les plus épouvantables. Comme êtres humains, nous sommes dotés, n'est-ce pas, de cette capacité qui est celle d'imaginer des choses que nous n'avons pas. Alors, la littérature est un moyen que les hommes ont découvert pour remplir cette vide. Dans ce sens-là, oui, je crois que la littérature est une compensation.
Théodore Dillerin, la littérature, c'est une compensation pour vous?
Ah bah c'est plus que ça, Ali, c'est plus qu'une compensation. Mais c'est drôle, parce que moi ça me
Parlez-nous de votre vie de
Théodore Dillerin. On a combien de temps d'antenne, Ali? Non, c'est plus qu'une compensation, et moi ça me fait penser à... J'en reparlais récemment avec un ami, à Umberto Eco, qui disait qu'il y avait tellement de livres encore à lire que, je sais plus la phrase exacte, mais qu'il pourrait pas être malheureux en sachant qu'il en aura toujours encore sous le coude, mais plus qu'une compensation.
Alors Christine Ferniaud, là, on va pas parler de littérature, on va parler d'un livre lecture rafraîchissant. C'est ça aussi le club de lecture. Ce sont des lectures éclectiques. C'est un très beau livre. Ça s'appelle « Boire les épices » de Mathilde Relinger et Bina Paradin-Migoto. C'est publié aux éditions Ulmer. Et c'est un livre qui nous permet de réaliser de délicieuses boissons à base de safran, de vanille, de poivre, de curcuma. C'est merveilleux.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les épices, c'était toujours quelque chose qu'on rajoutait dans la viande, qui était sec, en quelque sorte. Et là, Mathilde Relinger, alors, elle est un peu tombée dans les épices quand elle était toute petite, puisqu'elle est la fille d'Olivier Relinger, la sœur d'Hugo Relinger, qui est aussi un merveilleux cuisinier. Donc, elle a commencé par dire « Non, non, jamais les épices !» Et puis, elle est revenue, et maintenant, elle est merveilleusement à son aise et très heureuse d'être là. Bina Paradin-Migoto, elle est d'origine indienne et elle connaît très 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 bien les épices. Et toutes les deux, un beau jour, elles se sont dit « Mais tiens, après tout, nous on crée des boissons à partir de nos épices, on pourrait faire un livre là-dessus ». Et c'est vrai qu'au lieu d'être une saveur supplémentaire, elles ont créé des boissons et surtout des boissons pour toute la journée. C'est-à-dire, vous pouvez commencer comme moi au cocktail, parce que c'est plutôt comme ça que ça se passe chez moi. Après, vous passez à l'apéritif. Mais vous pouvez aussi faire boire des épices au goûter pendant les repas. C'est facile, c'est familial, c'est pas cher, c'est festif. Il y a un cahier technique qui nous explique un petit peu quelles sont les matières premières et les matériaux. Et ensuite, on peut commencer des boissons fraîches, des boissons chaudes, des boissons végétales. Et alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre parce que les bouillons aux épices, les citronnades, les orangeades, les boissons lactées, les infusions chaudes. Mais il y en a une que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle est la plus simple et la plus poétique qu'on puisse imaginer. C'est une eau fraîche d'hibiscus à la rose.
Oh là là.
Eh bien, pardon, eh bien. vous prenez une bouteille large, vous mettez de l'hibiscus, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau de rose, vous secouez un peu, vous mettez au frigo, vous buvez ça 2 heures plus tard et vous avez une eau fraîche d'hibiscus à la rose qui va épater absolument tous vos amoureux et vos amoureuses parce que c'est vraiment la poésie même et c'est tout le charme de ce livre qui est à la fois très simple et qui ouvre des horizons formidables, parce qu'on peut mettre aussi il y a un thé de Noël qui a tombé.
Il y a un café blanc libanais, il y a un café latte masala, il y a un lait tiède à la vanille et caramel au beurre salé, un chai latte frappé au lait d'amande.
Arrêtez, j'ai soif.
Je vais tester ce week-end. Ça s'appelle Boire les épices de Mathilde Relinger et Bina Paradin-Migoto. C'est chez Ulmer et Guimette me regarde d'un sale regard parce qu'elle aurait bien aimé se le garder pour ce week-end.
Je regarde d'un sale regard parce que je sais que vous n'allez pas me le donner. J'anticipe.
Vous me connaissez après toutes ces années.
Tout à fait, cher Ali.
Allez, Christina Pelédouel, vous nous recommandez la saine lecture des éléments de l'Irlandais John Boyne, les éléments publiés chez Jean-Claude Lattès. Et pour le romancier Colin McCann, John Boyne, c'est l'un des plus grands auteurs contemporains. C'est écrit en couverture.
Et autant dire que Colin McCann a raison. Boyne, là, il est parti, à mon avis, c'est ce que je lis un petit peu partout, pour rafler tous les prix Mais c'est absolument extraordinaire, ce livre. C'est justifié. Boyne est un Irlandais. Il est dans la plus pure tradition des écrivains irlandais qui sont tellement forts. Enfin, moi, je suis ébahie devant la force de ces auteurs. Et Boyne, alors là, il fait un tour, je ne sais pas si on peut dire un tour de magie, un tour de force ou les deux à la fois. Il construit son livre, alors la construction est dingue, à tomber à la renverse, c'est une espèce d'architecture dont on sort de là en se disant « non mais c'est extraordinaire ». 4 grandes parties qui reprennent chacun des éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et le feu. Premier élément, la mer. Et on s'aperçoit, enfin, apparemment, qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. On dirait 4 nouvelles, d'ailleurs, il a commencé à l'écrire comme ça. Et on s'aperçoit, à la fin, que toutes ces histoires, indépendantes les unes des autres, sont en réalité reliées par quelque chose qui n'est pas dit au départ. Alors évidemment que je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais la manière qu'a Boyne de rentrer dans la psyché de ces personnages, des personnages à côté, de parler de problèmes modernes, sociaux, psychologiques, avec autant de force et autant de puissance d'évocation, c'est absolument sidérant. Il se met aussi bien dans la peau d'une femme qui va se cacher sur une île, on ne sait pas pourquoi au début, puis peu à peu on comprend, que dans celle d'un jeune footballeur qui devient une star du foot sans jamais l'avoir voulu. C'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, moi, là, je suis partie à Dublin, je suis partie dans les îles où je ne vais pas tarder à aller, d'ailleurs, je le sens. C'est Boyne, c'est une force. Mais pour moi, c'est un écrivain, c'est ça. C'est une force.
Les éléments de John Boyne, qui fait partie d'ailleurs de la sélection de la rentrée littéraire de France Inter, et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Alors Théodore Dillerin, Le Bel Obscur, ce n'est pas vous, hein, Théodore, je suis désolé, mais c'est le titre d'un roman de la Belge Caroline Lamarche aux éditions du Seuil, Le Bel Obscur.
Le Bel Obscur, absolument. Et ce Bel Obscur, en fait, c'est une photo que trouve Caroline Lamarche en grattant un peu les archives familiale de ce grand-oncle qui a vécu au 19e, entre 1834 et 1865, précise-t-elle, et qui a disparu de la mémoire familiale. Et elle va aller gratter, savoir qui c'était, pourquoi ce type qui a sauvé deux personnes de la noyade, qui a accompli un acte héroïque dans les années 1860, a-t-il été effacé de l'arbre généalogique et pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus ? Et à partir de là, bon, on le trouve assez vite, donc je ne divulgâche rien, c'est parce qu'il était homosexuel. Et l'histoire de son oncle, il se trouve qu'elle fait écho à sa propre histoire, parce que son propre mari, à Caroline Lamarche, il y a 30 ou 40 ans, lui annonçait que bah, lui aussi, il était homosexuel et qu'il ne pouvait pas continuer d'être ensemble, mais ils ont fait le choix de continuer de vivre ensemble. Et donc, depuis, pendant 30, 40 ans, elle a vécu avec son mari et les différents compagnons qu'il a eus. Et elle a l'intelligence, Caroline Lamarche, de mêler cette histoire intime et l'histoire familiale, celle avec son mari, dans un travail d'archives qui est d'une finesse, d'une élégance, d'une pudeur qui est absolument superbe. Et voilà, tout ça nous donne un roman, un récit romanesque, qui est aussi le récit d'une émancipation, celle d'une femme et celle d'un mari. Et dans ce style bouleversant, je tiens à noter qu'il y a un jury qui lui aussi l'a remarqué, c'est celui du Goncourt, parce que la première sélection du Goncourt est tombée il y a deux jours, mercredi, et parmi toutes les têtes d'affiche qu'on attendait, Carrère, Mauvignier, Apana, qui ont fait de très bons livres, il y a aussi Caroline Lamarche qui est dans les 15 premiers titres du Goncourt, et je lui souhaite le meilleur.
Le Bel Obscur de la Belge Caroline Lamarche s'est publié aux éditions du Seuil. Delicious, c'est ce que vous êtes, Christine Fernu. C'est aussi le titre d'un roman de Mark Haskell Smith, publié chez Gallmeister. Je vous avoue que j'ai commencé à le lire. Ça me plaît beaucoup. Ça se passe à Hawaï.
Oui, alors ça c'est Hawaï dans toute sa splendeur. En fait, c'est une réédition de 2007, mais qui est passée
complètement... C'est en poche, hein.
C'est un poche, c'est donc la collection Totem de Gallmeister. Et il est passé un peu inaperçu à l'époque. Et là, c'est un rattrapage idéal parce que c'est le délire total.
Ouais.
On est à Hawaï, il y a le soleil, il y a les belles filles, il y a les surfeurs musculeux. Et puis, il y a Joseph qui est un traiteur sur les tournages. Il y en a beaucoup dans ce coin-là. C'est un très bon cuisinier. Mais le problème, c'est qu'il y a un type en face de lui, un sale type qui s'appelle Jack, Big Jack, qui veut mettre fin à ce monopole de Joseph. Jack, il se déplace en déambulateur. Il a toutes les drogues du monde pour avoir une érection permanente. Et ça n'est pas facile. Et alors, je vous fais une petite citation de Jean Bave, de Jack, parce qu'il s'explique avec Joseph. Il dit « Écoute-moi bien, le gros dur de nos lulus. Je viens de Las Vegas, bordel de merde. Tu comprends ce que je te dis ? Va souffler dans ton putain de coquillage, va ramasser tes noix de coco, va faire les conneries que ton peuple a l'habitude de faire, mais viens pas me dire comment gérer mon putain de business parce que tu sais pas où tu mets les pieds. » On sent quand même chez ce garçon l'élégance et le raffinement qu'on peut imaginer. Parce que, en fait, Joseph va forcément se venger d'une chose pareille, mais c'est aussi derrière toute cette histoire complètement dingue, c'est aussi une façon de critiquer une société américaine face à la culture hawaïenne dont ils se foutent complètement. Donc cette menace de cette culture hawaïenne, c'est la représentation même de ce Big Jack immonde. Donc c'est délirant, mais c'est pas vulgaire. C'est très cultivé, mais ça n'en a pas l'air. Et franchement, il y a une écriture passionnante, on ne le lâche pas une seconde. Et je voudrais saluer les traducteurs, Benjamin et Julien Guérif, qui ont dû en baver pour faire cette traduction-là, parce qu'elle est à la fois très juste et en même temps très colorée.
Et je sens que je ne vais pas le lâcher ce week-end. Ça s'appelle « Delicious » de Mark Haskell Smith. C'est publié chez Gallmeister. C'est en poche et la couverture illustrée est magnifique. Elle est pas mal.
Un gros big.
Allez, je vous ai demandé de choisir un livre de poche que vous avez envie d'offrir à un ami. Christina Pelédouel, vous avez choisi une bonne tasse de thé et autre texte de George Orwell, le célèbre auteur de 1984, et c'est publié chez Rivage Poche, une bonne tasse de thé.
Oui, voilà, on y revient, hein. George Orwell, il est éternel, il est inusable. Et alors, c'est un recueil de tout petits textes, probablement des articles qui ont été publiés ici et là. Et ce qui est merveilleux dans ce... Alors, c'est minuscule, hein, vous pouvez le lire tranquillement dans le métro, entre deux stations.
Dans le bus.
Ou le bus, si vous voulez, ou n'importe où.
Dans un caveau.
Dans une grotte, où vous voulez. Ça n'a aucune espèce d'importance. Hawaï, sur une plage, ou assis sur un cocotier. En tout cas, ce qui est merveilleux avec Orwell, dans ses petits textes, c'est qu'il a le talent, mais c'est sidérant, de ne pas dire... ce qui est important et que pourtant on perçoit à la lecture. Ça, c'est un truc qui me renverse chaque fois que je le lis. Et en particulier, alors il y a deux textes qui me ravissent. L'art de faire du thé. C'est dingue. C'est tout simple, hein. Il explique comment il faut d'abord ébouillanter la théière, mais pas trop, à 90 degrés, etc. Mais derrière ça, il y a, ce qui n'est pas dit, une critique de la bonne société britannique, mais qui est absolument extraordinaire et hilarante. Et il y a un deuxième texte que je vous recommande, qui est un bijou, ça s'appelle « Le Moon Underwater », ce qui est le nom d'un pub. Et alors, la description du pub préféré d'Orwell... Mais non, moi, j'y vais tout de suite. Alors, il ne donne pas l'adresse, mais je ne sais pas s'il existe encore, mais on peut y aller. Et la description du pub... Non, alors, écoutez, moi, je vais faire comme Christine. Le plafond tarabiscoté, jauni par la fumée de cigarette, la tête de taureau empaillée au-dessus de la cheminée, tout respire la laideur massive et confortable du 19e siècle. Non, mais c'est pas merveilleux, cette phrase. C'est vraiment... Non, mais Orwell, c'est un pur génie, un délice, voilà.
Un livre que je vous avais offert, d'ailleurs.
Exactement, Christina. C'est vrai.
Et ça s'appelle « Une bonne tasse de thé » et autre texte de George Orwell. C'est publié chez Rivage Poche. J'adore la tasse.
La traduction,
La tasse qui est en couverture, oui. Si vous pouvez m'offrir
bon collectionneur.
Des tasses de ce type-là. Non, c'est un petit message personnel. Et c'est traduit par Nicolas Vaquet qui a préfacé et annoté ce court texte formidable. Alors, Théodore Dillerin, dans une rentrée littéraire marquée par le thème des mères, vous offrez en ce moment, ou toujours, le livre de ma mère, d'Albert Cohen, en folio.
Bah oui, parce que c'est, je crois, le livre que j'ai le plus offert autour de moi. C'est à la fois un classique et la plus belle histoire d'amour qui a jamais été écrite, mais c'est l'amour d'un fils à sa mère. Cohen publie ce livre en 54, 14 ans avant Belle du Seigneur, livre... phare, totem, s'il en est, auquel on le rattache régulièrement. Il y a cette phrase dedans, « Amour de nos mères à nul autre pareil ». Et en fait, le livre de ma mère, c'est une sorte de chant d'amour infini. C'est un texte assez court, mais qui déjà réunit toutes les thématiques d'écriture de l'œuvre d'Albert Cohen. Son rapport au judaïsme, son enfance à Marseille, sa carrière diplomatique et l'amour sous les différentes formes que ça peut prendre. Et ce livre, il l'écrit... pas pour sa mère, il l'écrit pour sa femme. Parce qu'il y a une année qui est très importante dans la vie d'Albert Cohen, c'est 43. En 43, c'est à la fois la mort de sa mère et sa rencontre avec Bella, qui sera sa dernière épouse, qui sera aussi sa secrétaire. C'est elle qui tape Belle du Seigneur pendant des années et des années. Et Albert Cohen a un regret, c'est que Bella n'ait jamais rencontré celle qui a le plus compté pour lui jusqu'alors, sa mère. Et donc il va écrire le livre de ma mère pour rendre hommage à sa mère, mais aussi pour que sa femme, Bella, connaisse, rencontre sa mère. Voilà, donc c'est un double amour pour sa mère, pour sa femme, et c'est mon livre préféré que je relis régulièrement aussi, et que j'offre.
Je me souviens de notre ami Nicolas Demorand, qui disait, alors qu'il adore sa mère, qu'il avait du mal à lire le livre de ma mère d'Albert Cohen. Très beau livre, disait-il, sans doute, mais qu'il avait du mal à lire. Est-ce qu'on... Parfois, peut-être, quand on a un amour très fort pour sa mère, on a peut-être du mal à lire ce livre-là. Vous comprenez ou pas ?
Alors, je ne suis pas d'accord avec Nicolas là-dessus. Non, moi, vraiment, c'est un texte qui me bouleverse et qui crée aussi une proximité quand les liens se distendent.
C'est peut-être le caractère légèrement incantatoire du style d'Albert Cohen qui peut repousser certains lecteurs et son style poétique aussi. Et ça, moi, je peux comprendre, même si je suis absolument folle d'Albert Cohen.
Christine Fernieu, vous avez choisi Chérie de Colette chez J'ai lu.
Alors je vais revenir comme au début de l'émission finalement parce que Colette...
Tout est calculé, vous savez, dans cette émission.
Mais c'est formidable, mais c'est très professionnel ici. Hein. Et parce que, effectivement, Colette a parlé de tout et entre autres, elle a très très bien parlé du vieillissement, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme qui commence à peine à vieillir, elle doit avoir 40 ans, donc pour moi c'est une gamine. Et elle a un amant très jeune, et cet amant très jeune va commencer à la voir vieillissante, avec des petits détails. Je me souviens, je ne l'ai pas relue en fait depuis très longtemps, mais j'ai des images comme ça de cette femme, de cette héroïne, comme ça qui se repoudre, qui cache un petit peu son corps qu'elle trouve flétrissant parce qu'il y a le regard de Chérie qui est sur elle. Et je trouve que c'est un livre bouleversant parce que c'est ça qu'il dit, c'est ça que Colette arrive à dire, c'est tous ces petits détails de la vie à partir de très peu de choses. Et ce livre m'a toujours énormément touchée, même quand j'étais jeune fille. Donc c'est pas une question de rapprochement d'âge, mais c'est le talent immense de cette femme.
Chérie de Colette chez J'ai lu. Thibaut Guimette, un poche, vous avez envie d'offrir à des amis en ce moment ?
Les années d'Annie Ernaux, les années d'Annie Ernaux, les années d'Annie Ernaux. Non, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, moi, je crois que je l'ai offert. Je sais pas combien de fois je l'ai offert dans ma vie.
Chez Folio.
Chez Folio. Enfin, vous lisez les descriptions donc de ces années, c'est-à-dire donc. Ce sont des souvenirs, c'est le formica de la cuisine, c'est comment un placard grincé quand vous étiez justement dans la cuisine de votre mère ou de votre grand-mère. C'est tous ces petits détails qui en fait font une vie, qui font grandir quelqu'un, qui restent accrochés littéralement, qui capillarisent votre intimité. Je ne sais pas comment elle fait. C'est aussi le livre qu'on rêverait d'avoir écrit pour parler de son enfance et de ses années de jeunesse.
Thibaut ?
Un livre de Anne Dufour-Mantel qui s'appelle Les puissances de la douceur. Voilà, j'en ai déjà pas mal parlé ici. Et c'est vrai que
si vous en reparlez.
Voilà, je l'offre en tout cas très régulièrement. Pour moi, c'est deux choses. D'abord, c'est un livre de philosophie. Mais c'est un livre de philosophie qui ne se présente pas comme un livre de philosophie. C'est des très courts chapitres et qui essayent de penser une sorte de contradiction apparemment conceptuelle entre la douceur et la puissance. Et puis, c'est un livre qui est aussi complètement emprunt de l'autre partie de carrière de Anne Dufour-Mantel, qui n'était pas que philosophe, mais aussi psychanalyste, et qui a passé tellement d'heures à écouter, sans doute avec beaucoup de douceur et de bienveillance, ses patients. Et donc, c'est un livre qui n'est pas du tout abstrait, qui n'est pas du tout donneur de leçons, mais qui est quand même, comme ça, pétri d'écoute et de bienveillance.
Et c'est publié chez Rivage Poche. Et pour prolonger l'été, je recommande « 1000 jours en Toscane » de l'écrivaine et chef américaine Marlena De Biasi, en folio. C'est un voyage immobile dans l'une des plus belles régions d'Italie, la Toscane. L'histoire vraie de Marlena De Biasi, qui s'installe avec son mari vénitien dans un petit village, San Cassiano, où il découvre le sens de l'amitié, de l'hospitalité sincère, où les habitants célèbrent les très très bonnes choses à manger et surtout à partager. C'est merveilleux, c'est sensible, c'est gourmand. Et c'est la suite de 1000 jours à Venise, toujours en folio, où Marlena De Biasi raconte son histoire d'amour folle avec un banquier vénitien. Elle quitte les États-Unis pour ce vénitien et c'est merveilleux. Et il y a un troisième volume qui s'appelle Un palais à Orvieto. Tout ça, c'est publié en folio, 1000 jours en Toscane, vraiment. vraiment, c'est merveilleux. Allez, juste après le disque, vous retrouverez la nouvelle chronique de Thibaut de Saint-Maurice, les punchlines de la philo. En attendant, on écoute I'm Down to be Wrong.
Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight. Can't talk me out of it, yeah. From the window seat, I can see the street where we used to sleep. It was all a dream.
Down to be wrong.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Mais qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ?
Si. Ben, si.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, dans vos chroniques cette année, vous revenez sur ces punchlines des philosophes qui peuvent nous aider à mieux vivre. Et cette semaine, vous vous penchez sur cette formule « l'enfer, c'est les autres ».
Oui Ali, alors dont l'auteur est le philosophe Jean-Paul Sartre, non pas dans un livre de philosophie, mais dans une pièce de théâtre intitulée « Huis clos » et qui était créée à Paris en 1944. Alors « l'enfer, c'est les autres », la formule claque et sonne comme une déclaration apparemment définitive de misanthropie. On a immédiatement l'impression de comprendre que tous les autres sont responsables de toutes les difficultés de nos vies et qu'ils sont donc le principal obstacle à notre bonheur. Si les autres nous font vivre un enfer, alors il semble que la seule solution soit de les fuir, de limiter au maximum nos interactions avec tous ces autres qui nous entourent sans cesse et de construire une vie d'ermite, au calme, loin du bruit et de la fureur des conflits de voisinage, des tensions entre collègues, des disputes de famille et des insultes sur les réseaux sociaux. Notre paradis serait donc fait de solitude et pour vivre heureux, il faudrait vivre caché, donc à distance et sans jamais se soucier des autres. Mais question, si les autres peuvent nous rendre malheureux, n'est-ce pas d'abord parce qu'ils comptent pour nous ? N'est-ce pas surtout parce que nous avons besoin d'eux, en fait, pour être heureux ? Alors si c'est bien le cas, le choix de la solitude devient un choix risqué. Car en s'épargnant les difficultés de la relation avec ceux qui nous entourent, on s'empêche aussi de profiter des joies qu'ils peuvent nous procurer.
Alors, en quoi consiste précisément cet enfer et peut-on l'éviter ?
Alors, pour le comprendre, il faut, comme souvent, remettre cette citation dans son contexte. C'est un personnage qui dit cela, dans une situation de huis clos qui donne son titre à la pièce de théâtre de Sartre. Or, quand on est dans un huis clos, eh bien, on est enfermé. Ça, c'est assez facile à comprendre. Et de l'enfer à l'enfermement, il n'y a que deux syllabes. Quand on est enfermé avec d'autres personnes, on ne peut donc les éviter et on ne peut pas éviter les regards et les jugements qu'ils portent sur nous. Que les autres soient à ce moment l'image de l'enfer, ce n'est donc qu'une simple description de la situation. On est pris au piège du regard d'autrui et de son jugement, sans pouvoir s'en défaire. Et c'est alors donc effectivement être comme en enfer, c'est-à-dire juger définitivement sans espoir d'apparaître autrement que comme on est vu. Ainsi, le premier sens de cette formule, c'est que l'enfer n'est pas quelque chose de surnaturel, lié à un quelconque jugement divin. Pour Sartre, de toute façon, c'est assez simple, Dieu n'existe pas et donc notre bonheur ou notre malheur ne dépend que de notre condition d'homme et de nos interactions avec les autres hommes. Le deuxième sens de cette formule, c'est qu'elle nous invite à nous évader de l'enfer dans lequel nous enferme le jugement des autres. Si nous ne pouvons pas échapper au jugement des autres, nous pouvons tout de même travailler à nous libérer de sa portée. Et c'est tout l'enjeu, puiser à la puissance de notre liberté pour se souvenir que l'on n'est pas condamné à être ce que les autres voient ou pensent de nous. Nous sommes libres, nous pouvons faire de nos existences des projets qui, en se réalisant, vont faire mentir les jugements des autres. Rappeler que l'enfer, c'est les autres, c'est donc rappeler qu'il faut se libérer du regard des autres, précisément parce que sinon ce regard, il va nous enfermer. C'est rappeler que l'on peut toujours être autrement que comme on est vu, et c'est ainsi que l'on peut nouer des relations avec autrui sur une nouvelle base, la base du respect, de l'attention, de l'admiration, de l'affection amicale ou du sentiment amoureux. Et puis enfin, il faut aussi se souvenir que pour les autres, bah ça peut être nous qui pouvons être l'enfer. Et que de la même manière qu'il faut se libérer du regard des autres, il faut aussi apprendre à libérer les autres de l'enfermement de notre regard pour leur ouvrir les portes du paradis de notre reconnaissance.
Les punchlines de la philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade Patricia Martin. Et je vous rappelle que toute la sélection du club de lecture est à retrouver sur l'appli Radio France et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Merci Christine Ferniaud de Libé Polar, Théodore Dillerin de la librairie Le Comptoir des Mots et Christilla Pelédouel. Christilla, vous co-organisez la fête du livre de Fontainebleau en Seine-et-Marne qui aura lieu le samedi 27 septembre. Au programme, une trentaine d'autrices et d'auteurs qui viendront raconter l'histoire avec un grand H et leurs histoires. On y retrouvera Pierre Assouline, Claire Castillon, Joanne Chapoutot, Stéphanie Duncan, Laure Grand-Besançon, nos amis de France Inter, Lily Hassen, amis de France Inter également, Régis Geoffrey, Alexandra Lapierre, Charles Pépin et bien d'autres, dont votre serviteur.
Voilà.
Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci à Nathalie Romero qui m'a aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Maria Pasquet à la réalisation. Merci à Valentine Chedebois à la programmation musicale, à la technique ce matin. Guillaume Leroux, demain je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Lundi dans le mag de la vie quotidienne à 10h30 dans la grande matinale. Stress, fatigue, comment surmonter la rentrée. À suivre les amis Nagui et Leïla Kadour Boudadi et leur bande originale.